micro ouvert.
C'est Félicien Bogart qu'on entend pour démarrer ce micro ouvert. Vous savez, le gars qui fait billets verts sur le net, qui fait des vidéos sur l'écologie, en fait. Voilà, j'avais entendu dire que c'était compliqué pour le billet vert aujourd'hui, avec toutes les politiques, là. Mais j'avais envie d'en savoir plus et de faire un micro ouvert avec Félicien Bogart. Mais pas de réponse. On verra la suite. Voilà, j'avais envie de commencer ce micro ouvert avec ce petit son que vous allez entendre. Enfin, ce petit son, c'est énorme ce qui se dit, hein. Un petit son, mais l'info est dingue. Vous savez, des fois, dans le micro ouvert, on fait une petite intro qui n'a pas spécialement à voir ou qui a à voir avec le micro ouvert qui suit. Ça n'a pas d'importance. Vous faites les liens que vous voulez. Limite, moi, j'en vois pas, vous en voyez. Vous n'en voyez pas, j'en vois. Ça n'a pas d'importance. C'est une petite fenêtre comme ça pour la trouvaille de la semaine sur le net.
Moi, il y a un truc que j'adore dans la vie, c'est quand les gens sont contents. Alors évidemment, on se demande, mais qu'est-ce qui peut les rendre si contents? Le remboursement des glaces au caramel? Un cheval gratuit pour tout le monde? D'office, ils ont dû obtenir un truc super chouette.
Renvoyer les migrants vers des pays tiers. C'est le règlement retour, création de centres de retour en dehors des frontières de l'UE. Durée de détention maximale jusqu'à 24 mois. Et cadre commun à tous les États membres de l'Union européenne.
What do you mean by that?
Eh oui, l'Europe vient d'adopter un règlement qui permet d'envoyer de force des migrants dans des centres fermés, dans des pays qui n'ont rien à voir avec eux, comme l'Albanie, où c'est déjà le cas, mais aussi le Rwanda ou l'Ouganda. Une politique déjà pratiquée par l'administration Trump, qui a signé un accord avec la RDC. Ça veut dire par exemple que des Péruviens, expulsés des États-Unis, se sont retrouvés au Congo, à 10 000 km de là d'où ils viennent, à 14 000 km de là où ils espéraient aller. La cerise de pipi sur le gâteau de caca, c'est le nom qu'ils ont trouvé pour ces centres fermés. Des hubs de retour. Hub, un mot qui vient du langage informatique à la base et qui désigne le point de connexion d'un réseau de données. Une indication sur l'état de santé morale de l'Union européenne qui assimile clairement des êtres humains à des données informatiques et des centres de détention à des lieux de créativité et d'innovation. On pourrait en trouver d'autres. Du nomadisme assisté, de la flexi-déportation, un skibidi centre fermé avec des 6-7 testy crusty fil barbelé. Si on y réfléchit, le monde de l'entreprise et des startups regorge déjà d'expressions du genre. Nudging pour manipulation, plan social pour dire virer tout le monde. Faut croire que ce vocabulaire fonctionne aussi avec des politiques publiques autoritaires et néocolonial. Parce que ces tiers pays dans lesquels seront envoyés ces migrants sont eux-mêmes dans des situations souvent catastrophiques et le font avec un pistolet diplomatique sur la tempe. Pour l'Europe, c'est bien pratique parce qu'une fois qu'elle aura envoyé une famille de Maliens en Ouganda, elle n'aura plus à s'inquiéter de ce qui lui arrivera. Comme on est raciste, on se dit c'est toujours l'Afrique. Alors, pour bien se rendre compte, on sort nos petites cartes géographiques et on regarde un peu. Bamako, en Afrique de l'Ouest, région du Sahara et du Sahel, jusque Kampala, en Ouganda, région des Grands Lacs, c'est littéralement comme envoyer un Espagnol au Turkménistan. Tout ça est aussi d'une effrayante bêtise. Comment imaginer que ça puisse bien se passer, même sur le long terme, si des gens avec des vécus déjà pas possibles se retrouvent ballottés à des milliers de kilomètres de chez eux, dans des pays déjà sujets à d'énormes problèmes et dans des conditions opaques? C'est un fait, les enjeux du monde actuel font qu'il y a de plus en plus de migration en Europe. Et cette défaite philosophique applaudie à tout rompre est clairement une occasion pour l'Union européenne de ne pas prendre ses responsabilités pour composer avec la réalité du monde.
Conférence, débat sur la situation dans les IPPJ et c'est la troisième et dernière partie de tout ça. C'était le 7 avril 2026. Voilà, que dire? Moi, j'ai envie de donner mon petit grain de sel. Hein. C'est que c'est vrai que on entend tout à la fin hein, des petites pistes pour sortir de tout ça. Bon, vous comprenez rien si vous n'avez pas entendu la première partie ni la deuxième. Mais je vous invite vraiment à le faire, si vous êtes intéressé, quoi. Mais l'idée, ce serait baquer, mettre à la poubelle, stopper ces IPPJ et de mettre en place des moyens, quoi, en tout cas de récupérer tous ces moyens mis dans ces IPPJ pour, voilà, pour faire un chouette suivi avec tous ces jeunes mineurs qui ont dérapé, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça, ce serait une géniale idée. Donc, on arrête l'enfermement. Mais on voit bien que cette logique de l'enfermement, de la punition, voilà, ça c'est bien ancré dans notre système, quoi. Voilà, c'est carrément une autre façon de penser les choses, quoi. Et je pense penser, P-E-N-S-E-R, et puis il y a penser, P-A-N-S-E-R.
En fait, simplement, parce que je me rends compte que j'étais mal comprise dans ma question, là, tout de suite, et je me rends compte à quel point, en fait, une simple question peut être vue de différentes manières. Moi, à la base, juste pour contextualiser, pour qu'on comprenne où je voulais en venir, en fait, je suis institutrice de formation. Je travaille depuis 20 ans dans l'enseignement, plus de 20 ans même. Et j'ai eu la chance ou le malheur d'avoir deux aînés qui ont décidé d'aller explorer la rue, en fait, et qui se sont retrouvés là depuis 2 ans à peu près, d'IPPJ en IPPJ, pour des raisons différentes. Et donc, quand vous avez parlé tout à l'heure, ben, moi, ça a clairement fait écho à des choses que j'ai pu entendre au bout du téléphone, parce qu'on apprend ce que vivent nos enfants, ben, soit par les appels, les 3 appels qu'ils ont par semaine. Le temps en été où les équipes étaient réduites, bah effectivement, moi, mon enfant était 23 heures sur 24 en champ pendant un mois. Et quand il repasse devant la juge, on lui dit, ben écoute, comme il y avait pas, on n'a pas su travailler avec toi pendant un mois, ben t'y retournes parce que on n'a pas su te mettre en projet. Et est-ce qu'il y aura du monde le mois prochain? Ben on ne sait pas trop, mais bon, ce qu'on sait, c'est que comme on n'a pas su travailler avec toi, tu retournes quand même. Après 2 ans de passage en IPPJ, j'ai seulement appris maintenant qu'en fait, c'était pas considéré comme une sanction. Donc là, je l'ai appris au dernier passage, il y a un mois, parce que mon fils, qui venait de passer 3 mois en attente à Saint-Hubert et qui était sur liste d'attente, en fait, pour une autre IPPJ fermée, demande si quand il aura la place, il pourra, le temps qu'il a passé à Saint-Hubert pourrait être décompté de sa peine en fermée. Et là, la juge s'étonne. Pourtant, c'est une juge, personnellement, que j'apprécie beaucoup. Mais s'étonne et dit, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas du tout un emprisonnement, soyons clairs. Tu es là pour être dans un lieu d'éducation. Et donc, tu es là pour apprendre des choses. Et mon fils qui est à côté, qui dit, mais il n'y a personne pour m'éduquer là-bas. Il n'y a pas d'éducateur, il n'y a rien, il n'y a personne. Et la juge qui fait, non, mais t'inquiète pas, bientôt, tu auras ta place et tu verras. Il a encore passé un mois, il vient seulement d'avoir sa place. Quand il va sortir d'IPPJ, il faut savoir qu'il y est rentré, donc il avait à peu près 15 ans. Il va sortir, il en aura 17. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est la question que j'ai posée depuis le début et je comprends qu'on n'ait pas de moyens, mais en même temps, on ne dit pas que c'est une sanction. Je dis, moi, Émile, je préfère, comme en prison, on dit, voilà, tu as commis quelque chose de très grave ou quelque chose de grave, tu prends 6 mois, tu prends 1 an, tu prends 2 ans, et au moins, on voit clair que là, en fait, où il dort, il ne sait pas quand il va sortir. Il regarde les barreaux de sa chambre, il ne sait pas si c'est la dernière nuit. Il ne sait pas si 2 mois plus tard, il sera encore là, parce qu'il ne comprend même pas ce qu'il doit faire, parce que lui, il a l'impression que ça se passe bien, les éducateurs sont sympas, ils rigolent avec lui, etc. Mais au moment du rapport, oui, mais en fait, t'as fait le loup hier soir avant de dormir, et machin, et truc, et bazar. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au final, l'après, le problème, c'est qu'il va se retrouver à 17 ans, il a réussi son CE1D, d'ailleurs, c'est un enfant qui... heureusement pour lui, est intelligent, mais ça ne lui sert pas, malheureusement. Et donc, va se retrouver en 3e secondaire, sans savoir où aller, parce que mon aîné, quand on l'avait remis à l'école, le problème, c'est que quand on arrive dans une école et on dit « mais t'as fait quoi pendant 2 ans ?»« Mais en fait, j'étais en IPPJ. »« Ah !» Et donc, du coup, on revient à l'école et c'est « oui, mais écoute, t'as déjà de la chance qu'on te prenne. » Et parfois devant plein de gens. Donc, moi, tout à l'heure aussi, ce que j'ai entendu de toute la crise de l'IPPJ, on change IPPJ, on met école, on a la même crise. C'est-à-dire turnover, absence, équipe dont on compte que sur la créativité et l'engagement, manque de moyens, bâtiment vétuste, tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que c'est là que ça commence et qu'il n'y a aucun partenariat. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu. Je vous dis, en quasiment 2 ans, d'IPPJ, Frépon, Saint-Hubert, Wautébren, enfin, tout, j'ai tout découvert. Je ne savais même pas que ça existait, tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait le monde et puis tout ça est entouré d'une limite. Et puis tout d'un coup, on a le pied là-dedans. Et on découvre plein de métiers, on découvre plein de gens, et tous des gens dépassés, et tous des gens qui dépendent les uns des autres, et tous des gens qui n'en peuvent plus de rien. Et en fait, on a ces gamins-là qui évoluent comme ça, en parenthèse, et puis un jour, ils reviennent, Et on dit, maintenant, on espère que tu as été bien éduqué là en institution et que maintenant tu as bien compris et que maintenant tu vas. Mais avec quoi? Avec quels moyens? J'en parlais à son avocate, elle me dit, ben, comme beaucoup, il va, à 18 ans, il va sûrement aller au CPS et puis à un moment donné, il va se rendre compte et puis il va travailler quelque part. Ouais, mais attends, c'est pas ce qu'on veut pour un jeune. Et je parle même pas que pour mon fils. Moi, je me bats dans les écoles pour. Et comme par hasard, comme on dit, il y a le mal-chaussé, là, le cordonnier, ben, c'est moi. Et donc, en fait, le truc, c'est que je me retrouve avec des enfants comme ça. Et là où je veux en venir, parce qu'il y a quand même une issue dans tout ça, c'est que j'ai repris mes études, là, pour faire le master en sciences de l'éducation à l'UC Louvain. Évidemment, c'est passionnant. Mais dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de faire un stage, en fait, dans une assoc qui s'occupe de l'accrochage scolaire et qui a eu l'occasion récemment de faire un partenariat avec une IPPJ. Et en fait... Je me dis, en fait, c'est là-dedans qu'il faut, je sais pas. En fait, donc là, l'idée, c'était de faire s'exprimer les jeunes. Et surtout, ce que je trouvais très beau, c'est leur permettre de se réapproprier leur histoire. Là où ils sont devenus uniquement des dossiers. Parce qu'en fait, ils n'existent plus que par les dossiers de la juge. Ils ne sont plus personne, ils sont un dossier. Et là, c'est se réapproprier son histoire. C'est de nouveau pouvoir dire qui je suis, partager qui je suis. Donc, et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on leur a demandé d'évaluer le projet. Enfin, c'est pas moi, j'étais observatrice. D'évaluer le projet par la suite. Et donc, ils se sont mis à écrire. Ils ont beaucoup écrit dans le cadre de ce projet. Et ce qu'ils ont dit, c'est que depuis qu'on a pu... donc, il y avait plein de jeux de coopération entre groupes, etc. Et ils ont créé une nouvelle dynamique de groupe, de soutien entre eux. Et ce qui en ressortait, c'est que j'ai réussi. Je ne savais pas que j'étais capable de m'exprimer comme ça. Ça va me servir dans ma vie, ça va me servir à l'école, ça va me servir auprès de ma famille. Et qui étaient les animateurs? C'était eux-mêmes des jeunes... qui leur ressemblaient, auxquels ils pouvaient aussi s'identifier, mais qui avaient réussi à sortir. Soit ils étaient passés par des parcours compliqués, ou soit ils connaissent des gens qui... Et il y avait quelque chose là de lumineux, en fait, dans ce projet. Et je trouve que c'est ce qui manque, c'est la relation entre toutes ces institutions. Chacun se débrouille de son côté, dans sa merde, excusez-moi du terme, avec des enfants qu'on citait sac poubelle et tout. Mais c'est presque ça, en fait, de la manière dont ils sont vécus. Et un système qui met des mots, qui choisit des beaux mots pour parler de choses monstrueuses. Et voilà. Non, c'est pas un emprisonnement, c'est de l'éducation. Mais moi, je vais là-bas, je me fais fouiller, en fait. Je passe dans un truc, il y a des murs, il y a des barbelés, les fenêtres, il y a des barreaux. Vous parlez de nourriture. Moi, mon fils, par exemple, il avait dit à la psy, je refuse de vous parler tant qu'on ne me sert pas à manger correctement parce que c'est dégueulasse. Bon, alors, il est particulier, il est parfois très drôle. Mais en l'occurrence, c'est pour vous dire à quel point, pendant un mois, rester en chambre toute la journée et puis on te dit, c'est un système éducatif et tu retournes parce qu'on n'a pas su s'occuper de toi. Voilà. Ça, c'est moi, personnellement, c'était ce que je voulais dire tantôt quand je parlais de la récidive. C'était qu'il y a des pays, je pense, dans le Nord, où il y a quand même moins de récidives. Dans le milieu carcéral, vous avez le même taux de récidive. Et je ne parle pas... Là, je ne mets pas le focus sur le jeune, en fait. Je mets le focus sur est-ce qu'on ne se trompe pas, en fait. Est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque dans cette question d'accompagnement. Le système scolaire, les études PISA le montrent. Et à un moment donné, il faut investir là-dedans, en fait. Et tant qu'on compte sur la créativité, le bon engagement des gens, en fait, je suis désolée, mais tout va s'essouffler. En fait. Et ces jeunes, ça va devenir des jeunes qui vont poser problème à l'ensemble du monde. C'est celui qui va t'agresser plus tard parce qu'il n'aura pas trouvé de travail, qu'il n'aura pas de truc. C'est un danger pour vous comme pour moi, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais contextualiser, en fait.
Je suis aussi membre de la commission de surveillance. Et je voudrais vous dire, madame, que des témoignages comme le vôtre, on en aurait besoin à la commission. Alors, si ça vous vient à l'esprit d'enregistrer ce que vous avez dit, de réenregistrer, puisque c'est des... Déjà une fois fait, voilà. Si vous acceptiez qu'on nous transmette votre récit, c'est important aussi, parce que tout ça a à voir avec le respect des droits des jeunes également. J'avais une question pour M. Mazur et une question pour Maître Inger. Vous avez dit, M. Mazur, que dans la bouche des jeunes, le régime ouvert, c'est comme un internat avec des règles un peu plus militaires. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en régime fermé, alors ça, c'est complètement en militaire. Hein, en tout cas, l'IPPJ, où j'ai vu ça, il fallait aller au préau. La règle, c'est on sort de sa chambre, on se met au garde-à-vous à côté de la porte. Et quand tout le monde fait silence, alors on sort en file indienne jusqu'au préau. Alors... ma question, c'est est-ce qu'il y a un lieu où on discute des méthodes éducatives, tout simplement, qu'on applique en IPPJ?
Ou est-ce qu'il suffit qu'un éducateur ait un diplôme d'éducateur et puis ça marche comme ça, il fait comme il veut. Pour mettre un G, vous savez sans doute qu'il y a une controverse à propos de l'application du décret du 18 janvier 2018 à Bruxelles. Et que donc beaucoup de juges de la jeunesse bruxellois disent « Quand moi je place un jeune en IPPJ, c'est sur la base de la loi de 1965 et pas sur la base du décret. » Et dès lors, ces juges-là en déduisent qu'ils ne doivent pas appliquer le continuum éducatif, donc le système Sévor, intermède, éducation, etc. Et ils disent, nous, on met le jeune là où il y a de la place. Et si c'est dans un Sévor, c'est bien. Si c'est en intermède, pourquoi pas? Est-ce que ce n'est pas ça qui explique aussi qu'on ne respecte pas le système du continuum?
Alors, pour prendre la parole en premier, et en même temps, un grand merci à madame pour le témoignage. Je dirais aussi que ce qu'il faut dire par rapport au fermé, ça répond un peu à ce que madame a dit. Moi, je pense, au niveau du droit, peut-être on peut dire que ce n'est pas sanctionnaire, mais au niveau du ressenti, ce qui se passe vraiment dans les sections fermées, on est sur du sanctionnaire. On est à 200% dans du sanctionnaire par rapport aux jeunes. Je vais utiliser un exemple concret. C'est les jeunes qui ont commis des faits de radicalisme. Alors là, on est dans du sanctionnaire, mais en veux-tu, en voilà. C'est-à-dire que ces jeunes-là, qu'on est censé réhabiliter à la société, on va faire en sorte, au maximum, de les éloigner de la société. Et ces jeunes, on va leur donner aucun suivi, mais vraiment aucun suivi optimal. Moi, j'ai un jeune, un chouette gars, hein, franchement, un chouette gars avec qui j'adore bosser. Ça fait plus de 2 ans qu'il est en IPPJ. Ça fait plus de 2 ans, dont 1 an et demi qu'il a passé enfermé non-stop, c'est-à-dire pas d'autorisation de week-end, rien du tout. C'est 1 an et demi, il les a passés enfermés. Et cette personne, après, on veut la réimplanter dans la société en se disant, tiens, maintenant, ça va fonctionner. Bien sûr que non, ça ne va pas fonctionner. On vient totalement de désarçonner un adolescent qui est en pleine construction d'identité à ne plus être apte à la société. Cet adolescent, maintenant, quand il me parle, il me dit littéralement qu'il a de l'agoraphobie, qu'il ne se retrouve plus dans la société actuelle, et qu'il est déprimé à chacun de ses week-ends où il peut enfin rentrer chez lui. Ça, c'est ce qu'on a fait comme effet sur ce jeune radicalisé. Et je parle du radicalisme, mais à d'autres époques, et peut-être encore maintenant, ça peut être l'effet d'agression sexuelle, etc. C'est toujours des réponses politiques qu'on va donner. Et les réponses politiques qu'on va donner à ça, c'est la sanction. Donc là, on est dans un point de vue sanctionnaire. Quand on parle d'un point de vue sanctionnaire et qu'on parle du régime fermé, pour revenir à la question, oui, c'est militaire, mais c'est avant tout carcéral. Bien sûr que je pense que pour le fermé, on est dans un univers carcéral. Tout est fondé sur le fait que c'est censé ressembler un maximum à une prison. On va se légitimer derrière des lois, derrière des bonnes convictions, derrière beaucoup de choses, mais au final, on est en prison dans beaucoup de rappels, etc., qui sont faits. Le préau, c'est un rappel parmi tant d'autres. Dire le préau, etc. Moi, je vois cette cour dans ma section fermée. C'est 4 blocs de béton à l'intérieur duquel peuvent rentrer les jeunes. C'est leur seule sortie à l'air libre. 4 blocs de béton. À partir du moment où on rappelle ça à des jeunes, même s'ils vivent en communauté, même si la plus claire de leur temps, ils le passent hors de leur chambre, c'est quand même leur rappeler qu'ils sont là pour une sanction. Donc oui, c'est très militaire. Et est-ce qu'on parle de ça entre éducateurs et éducatrices? Pas du tout, bien entendu. Parce qu'il y a des réunions pluridisciplinaires. Donc chaque semaine, on va avoir des réunions pour parler des jeunes, mais pas parler des pratiques éducatives. Une fois par mois, il y a des réunions d'équipe. Mais on ne va pas remettre nécessairement en question ces pratiques éducatives. J'irai même plus loin. C'est que ce que je peux observer pour le moment, et là, je mets vraiment ma casquette de chercheur, mais dans mon ton, etc., clairement, il y a aussi un petit côté militant. Mais je pense que les deux peuvent aller ensemble, c'est de dire qu'on a même une protection des dérives que certains éducateurs peuvent faire. Il y a une culture de la loyauté dans les IPPJ. La plupart des éducateurs, bien entendu, ne veulent pas faire de mal aux jeunes, mais la plupart des éducateurs vont quand même protéger leurs collègues qui font du mal aux jeunes. Et ça, ça prévaut tous les droits que vous pouvez imaginer. Ça, ça ira toujours à l'encontre du jeune. Un jeune qui a raison face à un éducateur, l'éducateur sera protégé. Point à la ligne. J'en ai fait les frais. Personnellement, en tant que conseiller, où j'ai voulu prendre part et où j'ai voulu faire front face à un éducateur, où j'ai reçu des menaces, j'ai reçu des pressions, et au final, je me suis tué. Cette fois-ci, il n'y a pas longtemps, il s'est passé quelque chose à l'IPPJ de Beauté-et-Braine. On a fait front. Sur les 5 personnes au départ qui étaient prêtes à mettre une note, on n'est plus que 2. Donc ça montre aussi les pressions. Et après, on va venir me voir en disant « Mais non, on ne veut pas vous faire taire. Mais non, bien sûr, nous sommes là pour vous protéger, etc. » de la part de la direction. J'ai reçu aucun soutien de la direction, si ce n'est de dire que je fabulais, que j'avais manqué de courage il y a un an. Donc voilà, ça, c'est la réalité du terrain. La seule chose qu'on fait en tant qu'éducateur, je pense, en tant qu'équipe, pas d'éducateur, je veux décentrer du personnage et je veux un peu systémiser tout ça, c'est de protéger les personnes par un esprit de loyauté qu'on peut trouver dans plusieurs dans le travail social de manière générale, mais aussi par une certaine, et Chloé l'a très bien dit, identité masculine, viriliste, etc., qui fait qu'on va protéger son collègue, quoi qu'il arrive, etc., parce qu'on est des hommes et qu'on va se protéger les uns les autres. Et je pense que c'est une réalité aussi. Voilà.
Oui, mais ça, c'est, je change vraiment, on passe sur du beaucoup plus juridique. Mais donc, concrètement, la base légale qui est visée dans les ordonnances et les jugements de placement, c'est la loi de 65, parce que l'ordonnance de bruxelloise de 2019 n'a toujours pas été votée, n'est toujours pas là. Donc, il vise la loi de 65. Par contre, les juges sont obligés de viser un régime. Ils le font dans leurs ordonnances. Et donc, en fait, finalement, ils appliquent quand même la manière dont les choses sont pensées. C'est VOR, régime éducatif, un mois, trois mois. Par contre, il y a certaines conditions légales qui sont déjà présentes dans la loi de 65. Le fait qu'il faille un rapport médico-psy à partir de trois mois en IPPJ fermé, c'est visé dans la loi de 65. Et ça, c'est des situations dans lesquelles... Alors là, je donne cet exemple précis parce qu'on a été suivi par la cour d'appel. Mais moi, ce que je voulais dire de façon un peu plus large, c'est que je pense... Bah bon, il n'y a pas beaucoup d'avocats dans la salle, mais je pense que les avocats aussi devraient beaucoup plus systématiquement... aller en appel, déposer des conclusions et repartir sur base des conditions légales du placement. Parce que à ça, on nous oppose un discours qui est basé sur la légitimité de la décision qui est prise et non pas la légalité, en disant mais voilà, c'est important parce qu'on protège la société, mais on protège le jeune aussi. Et c'est l'intérêt. Voilà. Et non, alors Anne-Catherine aura beaucoup de choses à dire là-dedans, mais c'est l'intérêt du mineur. Et moi, je pense que c'est notre rôle. Et on en parle beaucoup, hein, mais c'est notre rôle aussi en tant qu'avocat de repartir du droit. Des conditions légales et voilà, c'est ce que je disais, on est dans de la privation de liberté et non, les conditions légales sont pas respectées et donc il y a déjà beaucoup de matière dans la loi de 65 sur laquelle se baser pour pouvoir faire appel de certains placements que moi je considère qu'ils ne respectent pas la loi. On n'est pas toujours suivi, hein, la cour d'appel de Bruxelles, voilà, mais on essaye.
Comme madame Janone,
voilà,
que le continuum ne s'applique pas, non, à elle, donc c'est régime fermé ou c'est régime ouvert, mais ça s'arrête là.
Mais on a un nouveau juge, alors peut-être que lui...
Est-ce que je peux juste, avant une autre question, répondre à madame, enfin, revenir sur... J'ai l'impression, je réfléchissais un peu, votre témoignage m'a beaucoup touchée, je suis maman par ailleurs, alors j'ai toujours beaucoup pensé aux mamans qui sont à l'extérieur, de qu'est-ce que ça doit faire d'avoir un enfant à l'intérieur des IPPJ. Et je pense que vous avez mis, pour moi, en évidence deux éléments. La première, c'est évidemment, il y a une crise du social de manière générale. Et donc, bien sûr, ces institutions, on peut les remplacer par plein d'autres institutions dans lesquelles il est censé y avoir du soin, dans lesquelles il est censé avoir de l'accompagnement, et que pour l'instant, c'est évidemment ça qui est mis à mal. Alors, je vais repiquer la formulation qui était très explicite du délégué général aux droits de l'enfant, qui parlait de cette situation de manière beaucoup plus transversale. Il faisait la référence avec une fuite d'eau. Si on a une fuite d'eau dans notre maison, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe l'eau et on va réparer la fuite. Or, donc ça, c'est pour penser de manière générale la délinquance. Si, par contre, oh, je le dis beaucoup moins bien que lui, par contre, ce qu'on fait pour l'instant dans les IPPJ, c'est que il y a un flux, il y a une fuite d'eau, et en fait, on met une bassine. Une fois que la bassine est remplie, on va la mettre de côté, on met une deuxième bassine. Et en fait, on ne coupe pas l'eau et on n'essaye pas de résoudre le problème de fuite au départ. Et c'est exactement ça que vous avez aussi, je pense, mis en avant dans votre témoignage. C'est que c'est sûr qu'il y a aussi toute une série d'autres problèmes qui sont bien plus en amont, qui sont en aval, qui sont à côté et qui sont pas du tout pris en compte. Et que finalement, l'IPPJ est juste là pour justifier toute une série aussi de politique et justifier le fait qu'il y a une légitimité. Voilà, mais en fait, on est face, en tout cas, au niveau sécuritaire, à une sécurité qui est complètement illusoire par rapport à ça. Et donc, le sanctionnel n'est jamais une réponse fondamentale à la délinquance. Et ça, moi, j'en suis fondamentalement convaincue. Et l'autre élément que vous aviez mis aussi en avant, C'est aussi par rapport à tout mon questionnement autour de la question du genre et des IPPJ. 95% des jeunes en IPPJ, ce sont des garçons. 95% des hommes en prison, ce sont des hommes. Et autour de ça, ce sont des femmes qui sont à l'extérieur des IPPJ. Et principalement, ce sont des femmes qui vont s'occuper des jeunes en IPPJ. Et principalement aussi en prison, ce sont les compagnes, les mères, les épouses, les sœurs qui vont s'occuper des hommes qui sont en IPPJ. Donc la question, elle dépasse complètement l'intérieur des IPPJ. On est vraiment sur une gestion transversale aussi de la violence masculine à travers les IPPJ et à travers les prisons qui sont en partie tenues de manière comme un partenariat avec toutes les femmes qui sont autour et qui gèrent ça avec l'État.
Moi, j'aimerais dire un truc. Il faut que je fasse gaffe à mon volume de ma voix, du coup. C'est une bêtise, mais en même temps, ça me chipote. Alors, j'explique. Moi, j'ai été éduque en 2013, on va dire, dans un centre d'aide spécialisée. Donc, c'est avant l'IPPJ ou après l'IPPJ, vous voyez. Donc, on recevait, on accueillait six jeunes filles. Et on était censé les remettre dans la société, alors qu'elles avaient toutes vécu des choses très difficiles. On était deux éduques sur un jeune, quoi. Vous voyez, c'était la mission. C'est. Mais à l'époque, déjà, je réagis à ce que vous disiez, vous. Il n'y avait pas de place, quoi. Il n'y avait pas de place pour le... Parce que là, vous avez parlé d'un... C'est pas le même centre, mais chez nous aussi, il y avait six places, vous voyez. C'est. Et il y avait... Je me souviens qu'il y avait... Une place pour en urgence, une urgence, quoi. On pouvait accueillir un jeune qui débarquait, voilà, c'était possible. Mais donc, il y a 10 ans de ça, il y a 15 ans, et puis je sais que même avant, pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça reste? Je comprends pas la mécanique. Peut-être vous qui êtes dedans, vous pouvez expliquer comment ça se fait que ça fait des années que c'est comme ça. Enfin, moi, je réagis sur l'idée de dire, ah ben voilà, on est un SRJ, quand il y a un cas d'extrême, voilà, il n'y a pas de place pour ce genre de jeunes. Mais pourquoi? Comment ça se fait que ça ne bouge pas? Pourquoi c'est lent? Pourquoi
J'ai juste un mini début de réponse. C'est que le secteur de l'aide à la jeunesse, c'est le final de toutes les politiques d'exclusion sociale. Donc ça veut dire que ce sont les enfants qui sont au bout de toutes les politiques antisociales, qu'elles soient en termes de logement, qu'elles soient en termes de travail, qu'elles soient en termes de toutes les questions quand même liées au séjour et à l'accueil des personnes en situation irrégulière, que ça soit en matière de santé mentale, en matière de handicap, que toutes ces politiques qui ne sont pas réfléchies de manière sociale envers les adultes, ça va mener à des enfants qui vont être dans des situations, on dit de maltraitance et de délinquance, maltraitance, négligence, mais en tout cas dans des situations de difficulté, et ce sont les jeunes qui vont se retrouver dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Et donc en fait, il y a aussi quelque chose qui fait qu'on est intimement lié, le secteur de l'aide à la jeunesse, c'est un secteur qui est intimement lié à la manière dont on traite les gens dans nos sociétés, enfin je veux dire, je peux pas le dire plus simplement que ça, et on sera toujours lié à ça, et donc... je trouve une des choses les plus compliquées, c'est qu'en fait, dans tout le plaidoyer qu'on fait, c'est un secteur qui est quand même très mobilisé. Là, on parle des jeunes et des IPPJ et des jeunes qui sont suspectés ou ont commis des faits qualifiés infraction. Mais en fait, on devrait parler de tous les mineurs en danger. Tous ces enfants-là, ils font quand même partie du secteur de l'aide à la jeunesse, qui est un secteur qui se mobilise beaucoup, qui se mobilise aussi beaucoup au niveau politique. Mais c'est très difficile parce qu'en fait, on est vraiment, cet entonnoir final de tout ce qui est de l'exclusion sociale et des politiques antisociales auxquelles on peut assister. Et enfin voilà, moi, c'est mon début de réponse, c'est de dire qu'on dépend de tout ça, on est la finalité de tout ça.
Oui, alors moi, je rebondis entièrement, tout à fait d'accord avec toi, Déborah. Moi, on ne peut pas penser l'aide à la jeunesse au sens... aide pour les enfants en danger ou pour les enfants qui, à un moment donné, sont passés à l'acte, sans penser les politiques d'aide sociale. Mmh. Alors quand on dit aux magistrats qu'il y a encore des éloignements des familles pour des motifs liés à la pauvreté, ça les fait un peu bondir parce qu'ils disent « mais non, on ne plaît jamais que pour la pauvreté ». Alors je suis assez d'accord qu'au moment où la situation est éloignée, il y a des problématiques de santé ou de scolarité qui peuvent quelque part justifier. Quand les parents n'ont plus de logement, ils n'ont plus de logement, il faut bien que l'enfant dorme quelque part ailleurs que dans la rue. Et donc l'éloignement n'est pas illogique, mais c'est vraiment Et donc là, je te rejoins à 100%. Ce sont les politiques sociales qui sont en baisse frappante, l'exclusion sociale qui augmente. Et donc forcément, ça va venir alimenter des éloignements et potentiellement ensuite des passages à l'acte qui n'ont absolument pas... qui n'aurait pas lieu dans un monde. Moi, j'avais été hyper affligée en lisant la déclaration de politique gouvernementale qui disait qu'il voulait lutter contre les violences intrafamiliales, ce qui est un vrai combat important à mener dans les familles, mais qu'à côté de ça, il diminuait les politiques d'aide sociale. Parce que moi, toutes les situations de violence qu'on a au centre, donc soit on a des enfants qui sont là pour des raisons de pauvreté, soit on a des enfants qui sont là en général pour des problèmes de santé mentale ou alors de violence. Toutes les problématiques de violence, en fait, les mamans sont épuisées et ne savent pas parfois, soit elles sont épuisées seules, elles n'y arrivent pas, elles ont besoin de soins, elles n'arrivent plus à gérer leurs enfants, soit elles sont toujours en lien avec le conjoint violent parce qu'elles n'ont pas les moyens. Je me rappelle encore d'une situation, un des enfants qui est parti en IPPJ à un moment donné, je parlais avec sa maman et j'étais là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen quand même donné de partir, de quitter monsieur, parce que c'est monsieur le problème, c'est pas vous, enfin même si tout ça est peut-être plus subtil que ça, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer ça? Elle m'a dit, mais j'ai déjà fait deux fois, je me suis retrouvée deux fois à la rue et on m'a enlevé mon enfant à ce moment-là. Et donc en fait, tant qu'on n'investit pas dans le social, on sera dans cette situation-là et on est plutôt par rapport aux années précédentes en recul, puisque les aides vont en diminuant. Et donc, en fait, le problème va se poursuivre. Moi, c'est la première chose que je voulais ajouter. Un deuxième point que je trouve qui est vraiment hyper important de rappeler à tout moment, c'est que les passages à l'acte sans avoir été soi-même victime sont rarissimes. Et que donc, les jeunes qui sont en IPPJ ont toujours connu eux-mêmes des violences de tout ordre différent, qu'elles soient familiales ou en dehors de la famille. Et que c'est vraiment hyper précieux de se rappeler que ce sont avant tout des jeunes en danger pour lesquels il faut mettre du soin et de l'accompagnement. Et ça, je pense qu'à un moment donné, on a tendance à oublier le fait que, et c'est pareil d'ailleurs pour les adultes, hein, il y a vraiment la question, je lisais récemment un article sur la question de la prostitution des mineurs ou de la traite des êtres humains. La majorité des jeunes filles qui sont dans ces réseaux-là, des hommes aussi, mais on parlait surtout des filles dans l'article, ont subi des violences sexuelles auparavant. Et à un moment donné, du coup, ont voulu reprendre une autonomie sur leur sexualité. Et c'est une manière de reprendre une forme d'autonomie, alors complètement déguisée, parce qu'en fait, il y a une autre emprise qui s'est mise en place derrière. Mais donc voilà. Et que donc, tant qu'à un moment donné, on n'arrive pas à mieux protéger au départ, on ne sortira pas de ce cycle-là. Et alors, enfin, pour moi, la dernière, et c'est peut-être ça, je pense qu'il faut complètement sortir du décloisonnement. Moi, je crois que les deux jeunes qui sont partis en IPPJ, et la jeune fille aussi, d'ailleurs, les trois, on aurait pu continuer. Ils ont leur place, en fait, en SRG, dans leur famille ou en SRG, mais on n'arrive pas à en prendre soin et à gérer leurs problématiques qui sont plus intenses que celles des autres, simplement parce qu'on n'a pas assez de moyens. Quand on a alors moi, je ne suis pas spécialement pour ouvrir des places, etc., pas du tout. Par contre, quand on a un éducateur la nuit pour gérer, alors, c'est 18, ce n'est pas un gros SRG, etc., mais que tu en as un qui pète un plomb, en fait, tu as besoin d'avoir un éducateur en permanence à côté de lui. Si j'avais deux éducateurs de nuit, on ferait des alternances, on se passerait le relais, ça irait, on s'en sortirait. Mais là, quand j'en ai que un la nuit qui doit gérer les 18, il ne peut pas rester à côté de un qui pète littéralement un plomb. On a un petit 10 ans, parce que lui, on n'a pas pu l'envoyer en IPPJ, il n'avait que 10 ans. Et donc, du coup, lui, il est retourné en famille parce que sa mère a pu le réaccueillir. Mais c'est atroce parce que la famille, la Delphie, c'est plus inclusif, est divisée. On a le petit frère chez nous et le grand frère est chez sa mère. Parce que le grand frère, en fait, a failli se tuer 10 fois depuis qu'il était chez nous. Et qu'à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, il va y avoir un drame, il va vraiment finir par mourir. Donc, on avait calfeutré toutes les fenêtres, gérer la cage d'escalier, on ne savait pas la fermer. Donc, à un moment donné, plusieurs fois, on l'a rattrapé, il se jetait dedans. Une intervention beaucoup trop tardive dans un foyer hyper violent, etc. Et donc voilà. Mais par contre, si on avait eu des médecins, des infirmiers, plus d'éducateurs sur place, que les secteurs n'étaient pas complètement cloisonnés, mais qu'on pouvait travailler ensemble et qu'on aurait pu continuer à travailler avec ces enfants-là et à un moment donné recréer quelque chose de l'ordre de la norme, plutôt que de dire « Ah non, toi, tu es trop difficile, du coup, boum, étiquette handicap. Ah non, toi, tu es trop compliqué, boum, étiquette pédopsychiatrie », parce que la pédopsychiatrie, c'est pas tellement mieux non plus, ce qui s'y passe. Même s'il y a de très belles prises en charge, mais je veux dire, ça reste compliqué là-bas aussi. On met des étiquettes comme ça, alors qu'en réalité, je pense que c'est le truc global. Mais pour ça, il faut ouvrir les secteurs et il faut ouvrir les espaces. Et alors, une chose qui me vient aussi sur cette question-là, c'est parce que là, on parle quand même normalement, enfin, dans cette conférence, on parle beaucoup des jeunes à la croisée des secteurs et des jeunes dont Anne-Catherine parle, mais en fait, dans les jeunes ados qu'on voit et qui passent par les PPJ, il y a aussi un manque de perspective, et ça, je veux dire, vous l'avez vraiment bien expliqué, mais qui est incroyable. Et enfin, moi, j'ai une anecdote. Quand je commençais à travailler en tant qu'avocate, donc j'étais quand même encore assez jeune, j'ai un jeune qui était dans un quartier dans lequel il y avait énormément de ventes de stupéfiants. Il avait vendu des stupéfiants, il était parti à l'IPPJ, il avait revendu des stupéfiants, il était parti à l'IPPJ, cette fois un peu plus longtemps, il est ressorti, il avait revendu des stupéfiants. Et donc, à un moment, moi, j'avais reçu dans mon bureau et j'avais dit, mais en fait, il avait 17 ans. J'ai dit, mais là, là, ça va pas aller, on va aller vers le dessaisissement. Enfin, il va falloir commencer à se réveiller. Il m'a regardé, il m'a dit, mais maître, moi, j'ai pas d'école, il arrivait pas à se rescolariser. Là, on me propose un 9-17 avec un bon salaire, je vais pas refuser. Et en fait, il me dit, j'ai pas d'autre perspective. Il avait littéralement un CDI de vente de stupéfiants en bas de chez lui. Et donc, en fait, non, mais c'est vrai que d'une certaine manière, ce sont des jeunes qui arrivent et qui me disent, moi, je n'ai aucune autre perspective. Et alors, oui, on avait tenté, y avait eu l'IPPJ, il y avait eu une EMA, mais en fait, ça n'avait pas suffisamment accroché, et c'est un jeune pour qui il fallait beaucoup plus se mobiliser pour le raccrocher. Et il disait, moi, j'ai pas d'autre perspective. Et donc voilà, en fait, je prends ce qui vient, mais pour le moment, c'est effectivement vers là que je me dirige. C'est pas évident dans ces cas-là de se dire, ah, ok. Voilà, c'est vrai, en fait. Il y a énormément d'adolescents qui actuellement disent, je n'ai aucune perspective d'emploi, aucune perspective de formation. Et donc, il faut bien trouver quelque chose, parce que, voilà, ça aussi, ça fait partie de toute une réflexion sur les politiques sociales et sur la scolarité des ados.
Il y avait monsieur voulait dire quelque chose.
Oui, mais bon, c'est moins important que tout ce que vous venez de dire. Mais si on reprend une perspective historique, le droit pénitentiaire existe depuis longtemps et il a fait bouger quelques marques. Et il y a des choses qui ont évolué. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, pour les adultes, c'était nécessaire de dire, voilà, on évolue. Tandis que maintenant, quand on se rend compte, depuis qu'il y a cette commission, les punitions collectives étaient inscrites dans les décrets, elles existent dans les faits. C'est une manière d'éducation. Il n'y a pas de... Donc, je pense qu'il y aurait peut-être une espérance que ce qui a été fait pour les adultes il y a 20-30 ans pourrait évoluer grâce aux institutions, les deux institutions qui viennent d'être créées, enfin, il y a 2 ans, mais qui fonctionnent, qui commencent à bien fonctionner. Peut-être ça va faire évoluer les choses. Bon, je ne vais pas dire qu'il faut sanctionner l'éducateur qui fait des punitions collectives, mais ce serait plutôt une option de proposer des formations ou d'utiliser les réunions d'équipe mensuelles pour faire quelque chose de mieux, parce qu'inéluctablement, il y aura des sanctions en droit pour l'institution qui continue à couvrir ses éducateurs sur des choses qui ne sont pas correctes. Je disais, c'est moins important que tout ce qui vient d'être dit, parce que ce qui vient d'être dit, ça a à voir avec les perspectives et le social. C'est-à-dire qu'ici, c'est uniquement de dire, on n'aura peut-être plus des punitions collectives, on n'aura peut-être plus, mais c'est vraiment en bout de chemin, c'est pas ça l'essentiel. Mais ces deux commissions, enfin la commission de surveillance et la juridictionnelle, peuvent poser le doigt sur ce qui ne va pas et avoir des propositions avec le délégué droit de l'enfant, enfin, avec d'autres instances qui permettent justement d'investir. C'est-à-dire, on a investi dans les adultes avec le droit pénitentiaire. Il est temps que... Comment ça se fait qu'il y a un effet retard? Je me pose des questions sociologiques. Hein. Comment ça se fait qu'il y a un effet retard pour les jeunes alors que c'est la génération qui vient maintenant et qui va nous remplacer une fois que nous serons tous partis ici, dans cette salle? Qui restera-t-il? Il restera toute la génération. Mais qu'est-ce qu'on aura apporté? On a déjà un effet retard sur le droit pénitentiaire, mais sur tout le reste, qu'a-t-on... Que peut-on encore espérer? Donc, il faut s'y mettre maintenant dans tout ce qu'on peut faire. Et je félicite le boulot parce que une punition collective, bon, c'est dans le décret. J'en parle avec le jeune et puis il me dit bon, c'est pas vraiment une punition collective qu'on a eue et donc on va scraper l'affaire qui est pendante au niveau de la juridiction parce que c'est considéré comme autrement, l'éducateur l'a formulé autrement, donc on n'a pas besoin de votre note administrative, maître, laissez tomber ça entre parenthèses parce que Donc, vous voyez, je comprends très bien ce que vous vivez. C'est-à-dire que ce n'est pas une zone de non-droit, c'est une zone de contournement pour l'instant. Mais je veux dire, si historiquement, on fait la même chose que pour les adultes au moins, puisque les adultes ont été respectés, ils ont des droits dans les prisons, eh bien, au moins que les jeunes aient le même, si pas plus, normalement, ils mériteraient plus, quelque chose d'adapté. Mais ici, on est en plein, en effet, retard par rapport à la jeunesse qui va nous succéder. C'est tout ce que je voulais constater.
Et vous, vous vouliez dire quelque chose ? Ou j'ai rêvé ?
Ouais ? Oui, oui, mais ça n'a pas trop de...
Ouais, c'est pas grave.
C'est plus pour revenir sur...
Et après, il y avait monsieur, je crois.
Bah, du coup,
pour... Parler à tout le monde.
Ok, hein, d'accord. D'accord, sans souci. Mais du coup, moi, c'était plus un retour par rapport à l'interpellation que vous avez faite sur l'état des IPPJ, qui est un état qui est assez déplorable. On voit que c'est un système qui, sur le papier, fonctionne, mais qui, en réalité, ne fonctionne pas. Moi, c'est peut-être plus une note personnelle que je me suis fait par rapport à ça, mais c'est aussi le fait que c'est quand même un sujet qui est assez touchy à aborder en politique. Dans le monde, pour pouvoir débloquer des budgets, il faut toucher le politique, parce que c'est le politique qui a le pouvoir. Mais c'est un sujet qui n'est pas évident à aborder, parce qu'on peut vite tomber dans le stigmate de la délinquance, qui est un sujet qui n'est pas facile à aborder, notamment par les médias. Et donc je pense qu'une manière de pouvoir peut-être améliorer la condition de ces jeunes, c'est peut-être déjà d'en parler, de dire c'est quoi les réalités de terrain, c'est quoi, comment est-ce que les jeunes le vivent. Et j'espère que la commission de surveillance arrivera, au biais de leur rapport, de toucher ce public, de monsieur, madame, tout le monde, pour qu'aux prochaines urnes, peut-être que les partis qui ont des positions plus douces avec ces jeunes puissent être un peu plus favorables. Après, là, je ne sais pas quel parti est favorable à ça, mais peut-être que vous avez des éléments de réponse.
Je parle à tout le monde. Bonsoir. Merci pour ces interventions tout à fait intéressantes, interpellantes et qui suscitent la réflexion. On le voit ici. Moi, je voudrais partager trois réflexions. La première, c'est la question des moyens. Alors, évidemment, tout le monde va dire qu'il manque de moyens. Ça, c'est un classique du genre. J'aimerais quand même rappeler que les IPPJ coûtent en moyenne, on donne un chiffre, on n'a peut-être pas réactualisé, mais enfin, c'est en moyenne 500 euros par jour par jeune. Alors, Anne-Catherine, ton jeune qui a été placé pendant 20 jours en IPPJ, il a coûté, ou même plus,
plus.
Donc, au bas mot, 12 000, 15 000 euros, avec ce montant-là, on engage un éducateur pendant 3 mois et on maintient ce jeune ou celui qui est renvoyé en famille, on met en place un accompagnement. Donc, il y a cette fuite en avant en termes, ben, tu l'as dit Chloé, par rapport on laisse la fuite couler et on met de plus en plus de bassines. Le nombre de places en IPPJ n'a fait que augmenter, alors que tous les textes internationaux disent que c'est une mesure de dernier ressort pour la durée la plus courte possible. Et donc l'objectif et l'obligation des pouvoirs publics, c'est de diminuer le nombre de places. C'est une obligation qui est inscrite dans les traités internationaux et les États devraient s'y conformer. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien solutionné. Il y a évidemment des changements fondamentaux à avoir. Qui aura le courage de les proposer, de les mettre en place ? Je n'en sais rien. Je ne vois pas beaucoup de courage à ce niveau-là. Mais j'admets que c'est compliqué. J'admets que c'est très compliqué parce qu'effectivement, il faut travailler à tous les niveaux de la lasagne institutionnelle. Et quand on augmente l'exclusion du chômage, on sait que ça va avoir un effet sur la socialisation, sur les moyens, la pauvreté, etc. etc. Et donc, nécessairement, alimenter la fuite. Et dans les mois et les années à venir, vous allez entendre des discours qui vont encore mettre une couche sur « on n'a pas assez de moyens ». Il y a une nécessité, effectivement, d'imaginer peut-être une autre approche. Cette approche qui veut qu'on enferme un jeune parce qu'il transgresse, pour lui apprendre à ne pas transgresser. Et donc on apprend à ne pas transgresser en mettant des grilles autour d'un jeune. Et donc comment est-ce qu'on apprend à ne pas dépasser les limites ? Parce qu'il y a une grille. Mais quand il n'y a plus de grille, on n'a pas nécessairement appris. Alors c'est un peu simpliste comme image, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il y a vraiment une nouvelle approche. J'entends que quand il y a des animations, quand il y a d'autres types d'interventions, ça suscite de l'intérêt. les activités théâtre, Chloé, tu pourras en parler, dans les IPPJ ou dans les prisons, ça suscite de l'intérêt. Quand on apprend l'art de l'éloquence ou le fait de pouvoir parler, ça suscite de l'intérêt. On a fait, nous, des ateliers photo dans les IPPJ et ils ont sorti un livre qui a de la gueule et qui a été diffusé. Ça, ils sont fiers de ce qu'ils font et on leur permet de s'exprimer. Et donc, il y a aussi peut-être à un moment donné à sortir de cette approche tu as fait des bêtises, on te tape sur les mains, et puis quand tu auras prouvé que tu n'en feras plus, tu pourras sortir. Je pense qu'on a vraiment du mal à sortir de cette logique-là. Et alors, dernier élément pour ne pas être démesurément long, sur la question de ce que vous dites... on me met là, on me dit que c'est dans mon intérêt, que ce n'est pas une punition, c'est pour mon bien. Ils ne sont quand même pas dupes, hein. Il ne faut quand même pas les prendre pour des crétins finis. Quand on les punit, on les enferme, c'est une punition, appelons ça une punition. Alors la difficulté quand on parle de ça, c'est de tomber très vite dans le modèle flamand, qui est encore un modèle soft, mais dans des modèles beaucoup plus sanctionnels, beaucoup plus à caractère pénal. Et est-ce qu'on veut vraiment appliquer le caractère pénal à des enfants ? Sur le caractère pénal pour les adultes, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, on sait, ça ne fait qu'augmenter, alimenter, on voit l'état de nos prisons. Et donc, c'est quand même une difficulté à la fois de dire « on te punit parce que tu as fait une bêtise », mais notre objectif, c'est quand même que tu puisses réintégrer la société en ayant acquis des compétences de vie sociale que, apparemment, tu n'avais peut-être pas totalement. Et donc, trouver le bon équilibre entre, oui, il y a de l'ordre de la sanction, mais on veut être positif par rapport à ça, malgré tout, ça manque un peu. Dernier élément, et je vois Laurent qui est là, il y a d'autres moyens qui sont à disposition, qui sont sous-utilisés, le travail d'intérêt général, la médiation, l'intervention éducative plus soutenue à côté des jeunes. Et là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais malgré tout, ce sont des moyens qui sont sous-utilisés et auxquels les juges ne font pas suffisamment confiance. Donc, il y a vraiment un problème où le système est la tête à l'envers. Merci.
C'est écrit dans la loi qu'il faut privilégier les offres restauratrices et que normalement le juge doit motiver lorsqu'il décide de ne pas recourir aux offres restauratrices mais d'aller vers une privation de liberté. Et à nouveau, je sais que je rabâche avec ça, mais à nouveau, ça n'est pas respecté ça, dans les faits.
Ouais. Mais c'est un peu...
Non, vous inquiétez pas, moi, le micro...
Ok. Je voulais intervenir de la place que moi j'occupe puisque je travaille dans un SAR. Mais c'est quand même l'impression que le système fonctionne avec l'IPPJ comme étant le pivot. Les juges disent aux jeunes, j'ai pas de place en IPPJ, alors je vais te laisser en famille. C'est vraiment toujours ce système-là qui fonctionne. Et ben, on est beaucoup moins cher. Tu parlais d'argent, on revient beaucoup moins cher que l'IPPJ. Et alors, ce dont je voulais parler, c'est les Sévores. C'est une auto-alimentation des IPPJ et des EMA. Vous disiez que le système est saturé, mais nous, on a aussi l'impression que le système se sature. Quand on voit le pourcentage à la fin du Sévor de propositions d'orientation, les SAR, mais on est sous-représentés. C'est alors qu'on doit venir comme étant normalement la première, comme tu le disais, la priorité dans la gradation. Voilà. Et donc c'est cette impression que le système s'auto-alimente, quoi. Et des places. On sait que le meilleur moyen, c'est Mme Tulkens qui disait ça, le meilleur moyen de vider les prisons, c'est de les fermer.
C'est clair.
Ouais. Moi, c'est ça que j'avais envie de dire. Moi, je pense qu'effectivement, et Benoît l'a assez bien dit en parlant des moyens aussi, c'est qu'il faut déplacer, quoi. Il faut fermer les places, fermer l'IPPJ, qui de toute façon s'écroule, hein, les bâtiments s'écroulent, le système s'écroule, pour réinvestir beaucoup plus massivement les espaces d'aide et de protection, mais qui soient suffisamment outillés que pour pouvoir garder un jeune, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible que de dire à un jeune, en fait, on ne veut pas te garder, quoi. Ce côté du sac poubelle des parents qui avaient dit ça à un moment donné. Et c'est vrai, parce que quand on est dans ces moments-là de crise, alors on parle beaucoup de ces jeunes à creuser des secteurs, mais en fait, ça concerne quand même pas mal de jeunes dans les réflexions. Mais en fait, ils doivent raconter leur histoire partout pour essayer de convaincre, en fait, c'est ce bon endroit qui est bon endroit. Et puis l'hôpital va dire, ah non, mais tu as 12 ans, mais tu es en primaire, donc en fait, tu n'es pas bon pour notre hôpital. Et donc, du coup, tu dois aller dans un autre hôpital. Et on est rebelote, on recommence le truc. Je crois vraiment qu'il y a un changement de paradigme qui doit s'opérer, quoi. C'est mettre fin à l'IPPJ au centre pour réinvestir les moyens de soins, les moyens de protection et d'aide et de justice restauratrice, parce que c'est nécessaire aussi à un moment donné de pouvoir dire il y a eu un acte et il faut que l'État travaille par rapport à ça, mais d'une manière différente, et qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'alors on pourra avoir un changement concret dans nos pratiques avec beaucoup moins de violence, parce que du coup, en fait, on alimente la violence. J'ai appris que mon jeune de 12 ans, dans les infos qui circulent, il repart vers l'IPPJ. Je vois pas comment ce jeune-là sortira de là. Et alors, et puis après, promis, je me tais, je donne la parole aux autres, mais pour moi, vraiment, la clé.
Après, hein.
Pour moi, la clé, c'est vraiment de repartir de la parole des jeunes. Enfin, moi, je trouve qu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé aujourd'hui, parce que ce n'était pas le sujet, mais de partir de la parole des jeunes, de partir aussi de la parole des parents, et d'essayer de penser avec eux des constructions qui soient hors format, quoi, parce qu'on a tendance à. Il y a des cases comme ça, et alors dans cette situation-là, c'est ça, et dans cette situation-là, c'est ça. Et on oublie parfois de profiter des interstices, comme Chloé aime bien parler, de ces endroits où justement on sort un peu des cases et pour penser autrement, voire même à un moment donné de se dire, ok, moi, de là où je suis, avec ma réalité subjective à moi, ces parents me font peur et je vois pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir bien s'occuper de leur enfant. Mais peut-être qu'en fait, c'est quand même la meilleure réponse pour leur enfant, celle qui est la plus conforme à ses droits fondamentaux, et de pouvoir sortir de ça et de sortir des cases, parce qu'en fait, au final, en restant accroché à nos idéaux, ben on contribue à un système de violence qui, au final, fait bien pire que mieux, et on brise des vies. Enfin, je veux dire, il faut pouvoir le dire. Enfin, voilà. On brise beaucoup plus des vies que si on avait peut-être fait à un moment donné des paris familiaux qui nous sortent un peu de notre zone de confort, mais qui auraient peut-être été beaucoup plus utiles pour le jeune, pour la famille et pour tout le monde. Voilà, la parole et les familles.
Je vais peut-être juste répondre une dernière fois, parce qu'il y a eu plusieurs questions sur la question de la CDS. Bon, d'une part, je pense que la question carcérale est vraiment... On est très, très loin de sujet de droit pour les personnes en détention, par ailleurs. Il y a une thèse qui vient d'être défendue de Léa Tepper sur la commission des plaintes en prison, qui alimente... voilà, qui parle notamment de tout ça. Je pense que... Donc moi, je suis criminologue, donc il y a le droit d'un côté, les lois d'un côté, puis les pratiques de l'autre. Et entre les deux, il se passe plein de choses. Et c'est voilà, c'est aussi comme ça que, enfin, c'est aussi là-dedans qu'on va peut-être pouvoir huiler les rouages, comme je disais, avec la commission de surveillance. Mais cela dit, si on arrive à faire ça, ce sera déjà vraiment quelque chose d'assez ambitieux. Je pense que la commission de surveillance est un élément parmi plein d'autres éléments. On a un tout petit rôle, et donc peut-être qu'on va pouvoir participer à changer, à faire savoir certaines choses, etc. Mais le risque aussi est qu'on soit complètement réaspiré par le système, comme c'est notamment le cas en prison, où quand même les commissions de surveillance font maintenant partie des décorums et sont réaspirées dans les logiques aussi internes, et donc instrumentalisées, etc. Donc là, pour l'instant, on a encore un effet de surprise. Je pense qu'avec cet effet de surprise, c'est intéressant comme levier. C'est peut-être un endroit justement où on crée encore un petit peu la brèche. Donc je pense qu'il faut en profiter justement maintenant. Et moi, je serais curieuse de voir justement qu'est-ce que ça va produire là, dans les prochaines discussions qu'on va avoir avec le terrain, avec éventuellement des politiques, si on a cette chance, si c'est pas un poisson d'avril. Et puis après, je pense que un rapport comme ça, moi je suis très contente aussi pour mes étudiants et mes étudiantes, je suis très contente pour le Génépi, je suis très contente pour plein d'autres gens qui tournent aussi autour de ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments factuels qu'on peut utiliser et qu'on peut, on peut en faire plein d'autres choses, les avocats, enfin voilà, c'est l'idée aussi que maintenant ce rapport il existe et on peut s'en emparer, on peut faire des choses avec, et c'est à plein d'autres personnes d'en faire aussi des choses, quoi.